おかしい、おかしい。
Bonsoir et heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Tribune de la Presse. Trois thèmes sont au menu de notre débat de ce soir, à savoir arrêt de travail depuis mardi dernier dans les régies financières de Gérald, Ofida et DGI. Les agents de ces régies réclament le paiement d'arriérés des salaires et des primes. Dans notre deuxième thème, nous parlerons de l'affaire Jean-Pierre Bemba. La Cour pénale internationale a confirmé les charges contre les leaders du MRC. Et enfin, au Parlement, clôture lundi 15 juin de la session ordinaire des mars dans les deux chambres. Trois confrères sont avec moi comme d'habitude dans ce débat. Il s'agit de Jean-Mel Boulam, rédacteur en chef adjoint et secrétaire de rédaction du journal Le Climat Tempéré. C'est un prix hebdomadaire parution à Kinshasa. Dieudonné Mbouyi, rédacteur en chef du journal La Tempête de Tropique, un quotidien qui paraît aussi à Kinshasa. Et Jeff Mingand, il est éditeur du journal Le Fédéral parution à Lubumbashi, au Katanga. Avant de commencer notre débat de ce soir, voyons d'abord comment les journaux quinois ont titré et analysé les trois thèmes que nous avons retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec Guy Maté.
Bonsoir. Par rapport au sujet retenu pour cette tribune de la presse, commençons par l'arrêt de travail observé depuis mardi dernier dans les régies financières. À ce sujet, la tempête des tropiques. Titre, DGI, Ofida et des Gérald paralysés par une grève. Les agents de ces régies financières réclament la rétrocession et les bonus, annonce le quotidien du boulevard du 30 juin, et de préciser que le gouvernement traîne à les libérer. Cette semaine, la presse a aussi fait état de la confirmation de charge contre Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale. Le potentiel indique par exemple, la chambre préliminaire 2 renvoie Jean-Pierre Bemba Gombo en jugement pour des crimes commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Procès de Bemba, bousillé, pataché, pointé du doigt, annonce sur sa manchette le palmarès. Ce journal évoque l'accusation de l'ONG, Fédération internationale des droits de l'homme, qui demande au procureur de la CPI d'approfondir des enquêtes sur des troupes rebelles de l'époque, c'est-à-dire les troupes de Bouzizé et les troupes loyalistes de Pataché, afin d'établir des responsabilités. Car, poursuit le journal, selon la FIDH, il y a eu des morts, certaines personnes ont attrapé le sida et d'autres ont été traumatisées. Autre actualité commentée cette semaine, la clôture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale. Le journal L'Avenir revient sur un extrait du discours du président de la Chambre basse du Parlement, Évariste Bouchard, qui affirme que « notre Chambre a réalisé 82% de ses prévisions ». Selon ce journal, il y a lieu de reconnaître que le bilan pour cette session de mars 2009 est largement positif. Ce quotidien chinois évoque notamment les lois votées par les deux chambres, les lois transmises mais pas encore promulguées, ainsi que les lois en attente pour la commission mixte Assemblée nationale-Sénat. C'est tout pour cette revue de presse.
Merci Guy Maté pour ce journal des journaux. Jean-Mel Boulam, vous êtes rédacteur en chef adjoint et secrétaire de rédaction du journal Le Climat Tempéré. C'est un tri hebdomadaire, c'est-à-dire un journal qui paraît trois fois par semaine, c'est ça?
Oui.
Et c'est votre première publication?
Non, ce n'est pas la première.
La première année, je veux dire, première année de publication.
Exact. Nous avons exactement trois mois.
Voilà. Un petit commentaire par rapport à cette revue des presse que nous venons de suivre. Vous pensez qu'elle a été suffisamment fournie cette semaine?
Bien, il y a eu des événements. Il faut retenir d'abord les principaux événements. La grève des trois régies financières a effectivement retenu l'attention des gens. C'était un événement à caractère parfois, à la fois politique, économique et social. Il était normal que la presse en fasse écho. Bon, le deuxième problème, le deuxième titre, l'affaire Jean-Pierre Bemba, c'est une affaire qui date longtemps et qui continue à faire couler de l'encre, qui a une importance sur le plan international et le plan national. Sur le plan international, l'événement a eu lieu dans un pays étranger. Et sur le plan national, c'est un des grands leaders du pays et il est normal que la presse nationale s'y intéresse. Mais il en est de même pour la question de l'Assemblée nationale. Ce sont nos élus, ce sont des gens que nous avons envoyés pour défendre nos intérêts. Il est aussi normal que nous parlions de ces élus, de ces gens-là, qui sont là pour défendre nos intérêts. Et nous sommes appelés aussi à faire écho de leurs activités.
Merci Jean-Mel Boulam. Dieudonné Mbouyi, vous êtes rédacteur en chef du journal La Tempête des Tropiques, un quotidien qui paraît Kinshasa. Contrairement au climat tempéré, vous paraissez tous les jours. Votre commentaire par rapport à cette revue des presse?
Non, je peux dire que la revue de presse, telle qu'elle a été brossée, Il résume suffisamment très bien ce qui est l'actualité telle qu'on l'a vécue tout au long de ces derniers jours.
Merci de donner un bouillie. Jeff Mingam, vous intervenez à partir de Lubumbashi dans la province de Katanga. Vous êtes éditeur du journal Le Fédéral. C'est un journal Le Choix. Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui au Katanga?
Oui, bien, merci beaucoup, Madame Kelly. Ce qui sert plus d'actualité à Lubumbashi, c'est d'abord la grève qui a fait presque un mois de la fonction publique. La fonction publique au Katanga ne travaille pas. Et curieusement, on n'en trouve pas de solution, on ne fait même pas écho de ça. Bon, c'est aujourd'hui aussi la grève de nos amis de régie financière qui les rejoint. Et pourtant, ils étaient déjà conviés par leurs camarades avant et avaient refusé. Bon, ça c'est que c'est l'actualité. Mais aussi, il y a la clôture de la session parlementaire. Et on pensait, bien sûr, on attendait plutôt à l'interpellation du ministre Mouzito, qui n'a pas eu lieu malheureusement. Et ça inquiète plus d'un citoyen au regard de la misère galopante, et de manque de solutions aux problèmes qui sévissent la communauté nationale.
Merci. Premier thème de notre tribune, arrêt de travail depuis mardi dernier dans les régies financières des GIRAD, OFIDA et DGI. Les agents de ces régies réclament les paiements d'arriérés des salaires et des primes. Pour décompter la situation, le ministre du Budget a affirmé que toutes les opérations de liquidation ont déjà été faites. On écoute Michel Locola, interrogé par Innocent Olinda.
Je peux vous informer que toutes les opérations de liquidation ont été faites depuis le 16 juin pour qu'on puisse mettre à la disposition de ces régies financières de tous droits afin qu'ils puissent reprendre le travail.
Oui, mais pourquoi, monsieur le ministre, y a-t-il toujours retard dans les paiements de l'air dû par les gouvernements?
Il n'y a pas que les régies financières qui connaissent ce retard. Même le gouvernement le donne aussi. Je vais vous dire que moi, je suis ministre, mais je n'ai pas encore touché le salaire du mois d'avril. Il faut comprendre que nous avons les deux pieds aujourd'hui dans la récession économique. Nous avons fait une baisse de croissance négative de 4,8% au premier trimestre 2009. On ne sait pas la suite. Donc, ceci étant, toutes nos prévisions budgétaires initiales devraient être revues à la baisse pour les adapter à l'environnement actuel. Et ce qui fait que, de temps en temps, nous connaissons un certain glissement au niveau de l'exécution de certaines dépenses, même celles qui sont les plus contraignantes, c'est-à-dire les dépenses de rémunération.
Le directeur du cabinet adjoint du ministre des Finances a indiqué pour sa part que 7 milliards de francs congolais au titre de bonus seront payés la semaine prochaine et les restes à la fin du mois. Du côté de l'intersyndicale des agents, on attend soumettre ces nouvelles propositions du gouvernement à l'appréciation de la base. On écoute Donatien Gabi Boulou, président de l'intersyndicale des régies financières et secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs, au micro d'Anaï Rung.
Il y a un pas positif de la part du gouvernement. L'appréciation de cela, l'intersyndicale va apprécier à travers ses membres. C'est notre position. Parce qu'il dit la deuxième tranche pourra peut-être, on ne va pas utiliser le mot peut-être, là ça ne va pas. Il faut être certain. Parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de ne pas payer. C'est le fait de plusieurs promesses non réalisées. Ainsi, il y a une sorte de crise de conscience entre le gouvernement et nos camarades de l'intersyndicale que nous représentons. Le dialogue social, ce n'est pas nous seulement qui devons aller vers l'État. Si l'État a des problèmes dans la liquidation des droits qui sont les nôtres, mais qui nous appelle, qui nous informe préalablement.
Voilà, Dieudonné Mbouyi, vous venez de suivre le ministre du Budget et le président de l'intersyndicale. Selon vous, pourquoi y a-t-il toujours un retard dans les paiements des fonctionnaires?
En fait, c'est une situation à déplorer parce que je pense que le salaire d'un fonctionnaire ou d'un agent est un droit, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la conjoncture. L'État est dans l'obligation de payer ce droit-là. Donc, je pense que quelle que soit la récession que le ministre du Budget vient d'évoquer, en tout cas, il ne peut pas justifier le fait que ce qui devrait être payé aux agents des régies financières n'a pas été payé. À mon avis, je pense que c'est la preuve qu'il y a dysfonctionnement au sein du gouvernement. Pourquoi? Parce que la ministre du portefeuille, qui est membre du gouvernement, est donc supposée être au courant de cela. Qu'est-ce qu'elle a fait pour informer les responsables des régies financières? financière pour que des dispositions soient prises à temps afin d'informer les agents, parce qu'on a suivi tout à l'heure, l'intersyndicale déplore le fait qu'il n'y ait pas eu dialogue. Si elle avait été informée à temps, je pense qu'elle aurait aussi eu le temps d'informer la base, et à ce moment-là, on aurait pu éviter tous les manques à gagner qu'on a déploré.
Jamel Boulam, on a l'impression que le gouvernement attend toujours qu'il y ait des mouvements des grèves pour pouvoir se pencher sur la question des salaires des fonctionnaires. Comment expliquer ce phénomène?
Exactement, j'ai pensé. C'est une situation récurrente au sein de l'administration publique. Les agents des régies financières ne sont pas à leur première grève. C'est presque chaque fois, pour avoir leurs droits, ils doivent aller en grève. C'est une situation normale. Ils savent très bien ceux qui sont au pouvoir.
Qu'est-ce qui est normal? Aller en grève ou bien le fait que le gouvernement attende toujours qu'il y ait des grèves pour pouvoir réagir?
Non, j'ai dit que c'est pas normal. C'est pas normal que pour accéder à son droit, il faut faire la grève.
Okay.
Diédon a dit tout à l'heure ici que le salaire, c'est un droit. Les droits, on ne les négocie pas. Et le gouvernement qui a créé ces régies, qui sait très bien qu'il y a des gens qui travaillent, ces gens-là doivent toucher leur salaire. Ça doit être planifié, ça doit être programmé. Il ne faut pas attendre que les agents entrent en grève pour négocier. On ne doit pas négocier un droit. Le ministre a dit tout à l'heure que lui non plus n'est pas payé. Mais il ne doit pas confondre la hauteur de son enveloppe salariale à celle d'un agent. Lui, il est capable de faire des prévisions avec son salaire. Mais un agent qui touche moins de 100 dollars, vous le laissez traîner comme ça pendant 4 mois et vous brandissez l'argument que moi qui suis ministre, je ne suis pas encore payé. Ce n'est pas normal. Et il leur dit que gouverner, c'est prévoir. Ils doivent prévoir, ils doivent savoir qu'à la fin de ce mois, nous devons payer autant. Mais lorsqu'il faut attendre 4 mois pour des familles, des pères de famille qui ont des enfants qui doivent aller à l'école, qui ont des enfants qui doivent pédir des soins médicaux, ils doivent attendre 4 mois sans leur salaire, ce n'est pas normal.
Vous intervenez à partir du Katanga. Est-ce que cette grève entraîne des conséquences sur l'économie du Katanga, ou bien quel est l'impact de cette grève au Katanga? Est-ce qu'on la ressent?
Oui, effectivement, on en ressent, mais avant cela, je voudrais ajouter un mot aussi par rapport à ce que les amis ont dit.
Oui, allez-y.
Nous, ça ne nous étonne pas, effectivement, de voir que le gouvernement, tous les gouvernements congolais, ont cette habitude, bien sûr, de ne pas résoudre le problème conformément aux conventions, conformément aux droits des gens. On attend toujours qu'il y ait des soulèvements, qu'il y ait des grèves. Donc, ça ne nous étonne pas. Pour un ministre qui se plaise sur les médias officiels a dit, même moi, ministre, je ne suis pas encore payé. Alors qu'il devait comprendre que lui, c'est un serviteur, il devrait même être payé après tout le monde. Et moi, je pense que vous sentez que l'égoïsme et l'égocentrisme qui caractérisent nos dirigeants est déjà une chose qu'il faut décrier. Et c'est tellement, bon, pour le terminer, il faut peut-être arriver à des grèves. Voilà, on peut arriver à des solutions. Curieusement, quand les gens maintenant annoncent une grève, maintenant c'est alors qu'on va chercher à s'expliquer. Non, on a déjà versé, bon, on est prêt à payer. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Bon, vous posiez la question de savoir si cela avait un impact au niveau de l'économie du Katanga. Oui, vous savez que le Katanga n'est pas seulement minier, mais il est aussi il y a aussi ses régies financières avec l'OFIDA, avec la DGRA et tout ça. Ça a un impact très, très négatif. Et c'est pour cela que vous sentez que partout à l'intérieur, les gens réclament la décentralisation. Parce que si chaque province pouvait, dans une certaine mesure, prendre des prérogatives qui lui sont propres, je ne pense pas qu'on connaîtrait des situations pareilles, des grèves, des soulèvements tout le temps. Voilà un peu la situation telle que nous l'avons ici au Katanga.
Oui, Jasper Mingamb, d'après le ministre du Budget, Michel Okola, la contribution de ces régies financières au premier trimestre 2009 est de 448 milliards de francs congolais. Avec les grèves qui se multiplient à travers le pays, est-ce que vous pensez qu'elles sont une conséquence de la crise financière mondiale ou c'est lié à un problème de gestion au niveau du gouvernement? Parce que certaines autorités avancent cette raison des crises financières mondiales.
Les grèves chez nous au Congo ne datent pas de la crise, de la période de la crise mondiale. Hein. Les grèves nous avons toujours connu des grèves. et ces grèves n'ont jamais malheureusement aussi trouvé des solutions. Finalement, ce sont les agents, les fonctionnaires qui se fatiguent et même et reprennent le chemin de leur boulot. Bon, on ne va pas aujourd'hui mettre ça sous prétexte de la crise mondiale. Ça, c'est un faux problème. C'est un problème de gestion, c'est un problème managérial. Quand on n'a pas une vision de la gestion de la chose publique, on ne sait pas où on amène les autres, on amène la communauté. Il est tout à fait normal qu'on connaisse ce genre de situation. Parce que ça ne devait pas être une histoire où les ministres en charge, c'est comme s'il est surpris. Non, ça ne devait pas être ainsi. Ça devait être sa préoccupation. Parce qu'on sait que c'est ça qui la comme travaille, c'est que la commission. Mais s'il est surpris lui-même, quelques jours après que non, c'est maintenant que nous nous afférons pour mettre ça au point. Moi, je pense que, bon, en fait, il y a de l'amateurisme dans la manière de gérer. Et c'est pour cela que nous regrettons même pourquoi le Parlement n'a pas finalisé cette histoire d'interpellation du Premier ministre Mouzito. Vous sentez qu'il y a l'inertie, la léthargie sur tous les plans. La situation vraiment elle est désastreuse ici en province. Pour avoir ne plus que 1000 francs, c'est pas facile. Hein. Même nos journaux, c'est difficile même que que les gens achètent et que même nos abonnés, nous avons de peine. Tout ça, c'est lié à quoi? À l'impaiement. Les gens, l'argent ne circule pas.
Dieudonné Mbouyi, est-ce que vous pensez aussi que ces répétitions des grèves sont liées à la mauvaise gestion?
Oui, hein, on ne peut pas dire que l'État est un bon élève en matière de gestion, hein, on ne peut pas le dire. En fait, je déplore le fait que l'État congolais fonctionne sans être audité. Personnellement, je suis de ceux qui ont encouragé l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lorsqu'il a quand même fait un effort pour relancer la Cour des comptes. Mais on a senti de la résistance. C'est comme si les gens ne voulaient pas que l'État soit audité. Alors, les conséquences sont là. Et on va toujours arriver à des situations où il y aura des incidences sur le budget. Il y aura des incidences.
Certaines personnes pensent que la lettre du chef de l'État adressée au Premier ministre a des implications dans cette grève de régie financière. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, on peut aussi le penser. Hein. Tout homme de la rue peut penser de cette façon-là, parce que comment on peut expliquer que le gouvernement réagit seulement maintenant qu'il y a la grève, alors on réagit pour pouvoir résoudre le problème? Pourquoi on n'a pas pu réagir avant? Est-ce que ce n'est pas le fait que le chef de l'État a demandé au Premier ministre de requérir toujours sa signature avant d'engager les dépenses? Est-ce que ce n'est pas cela? Bon, on peut se poser des questions, mais je pense quand même que quelque part, il y a dysfonctionnement au sein du gouvernement et il faut absolument qu'on puisse se mettre de l'ordre.
Jean-Noël Bolam, un peu six mois à ce niveau des débats, vous êtes aussi d'avis que cette lettre du président a quand même des implications sur cette grève des régies financières?
Exactement, parce que, comme l'a dit Dieudonné et notre confrère de Lubumbashi, il y a un dysfonctionnement. Comment voulez-vous que pour qu'un premier ministre engage une dépense, il faut que le président de la République autorise? C'est qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne marche pas. On a parlé de dérapage de la monnaie, on a parlé aussi de dépenses. Et le gouvernement congolais qui engage d'énormes dépenses ne parvient pas à payer le personnel, ne parvient pas à programmer la paye du personnel de l'État. Ce n'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe gouvernementale et ça mérite vraiment un changement.
Jacqueline Lam, on va clôturer avec vous ce premier thème. Que faut-il faire pour éviter que ce genre de crise qui malheureusement se répète dans notre pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce genre de grèves à répétition?
Oui, pour mettre fin à ce genre de situations de grève à répétition, moi je crois que la première des choses, c'est que les gouvernements doivent prendre sa responsabilité. On ne doit pas, comme les amis indiens le disent aussi, avoir des dirigeants qui ne comprennent pas qu'ils sont des mandataires, qui ne sont pas là pour s'enrichir d'abord eux-mêmes. Ça, c'est un des deux. Nos députés aussi, ils doivent prendre la responsabilité qui est la leur aussi. De savoir que quand on interpelle quelqu'un, il faut qu'on en arrive au bout. Et qu'il faut qu'il y ait des sanctions, qu'on les sanctionne, que ce soit positivement ou négativement. Pourvu que les choses soient bien, qu'il y ait sens de la bonne gouvernance et qu'il y ait aussi de la transparence dans la façon de gérer. Mais aussi, pour mettre fin à ça, il faudrait réhabiliter tous les secteurs. Vous voyez, aujourd'hui, on est pratiquement secoué à cause des régies financières. Mais si tous les secteurs de la vie produisaient correctement et si les salaires étaient équitables. Mais moi, je pense qu'on n'en arriverait pas à ça.
On aime mon chef.
Ma proposition, c'est qu'il y ait justice, qu'il y ait équité dans le traitement de tous les citoyens du pays. C'est ma proposition.
Deuxième thème de notre émission, affaire Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale a confirmé les charges contre les leaders du MLC. Les charges portées contre Jean-Pierre Bemba ont été confirmées lundi dernier dans la soirée. La chambre préliminaire 2 a par conséquent ordonné le jugement du leader du MLC. Cette chambre a conclu qu'il y a des preuves suffisantes donnant motif substantiel de croire que Jean-Pierre Bemba est pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire, de chef des crimes contre l'humanité, notamment le viol et le meurtre, ainsi que trois chefs des crimes de guerre, à savoir viol, meurtre et pillage, ont été retenus à son encontre. Selon le chargé des communications à la CPI en RDC, une chambre de première instance sera mise en place dans les tout prochains jours et cette dernière aura pour tâche de définir les calendriers pour l'ouverture de l'audience. Cette décision de la CPI a suscité évidemment beaucoup de réactions. Du côté du collectif des avocats de Jean-Pierre Bemba, on se réjouit du fait que la Cour n'a retenu que le strict minimum en termes de responsabilité de Jean-Pierre Bemba. Maître Kilolo affirme qu'ils vont interjeter appel. Je donne un bouilli, vous êtes rédacteur en chef du journal La Tempête des Tropiques, un quotidien qui parle à Kinshasa. À la une de votre journal du mercredi 17 juin 2009, vous titrez « Les avocats de Jean-Pierre Bemba vont interjeter appel ». Pourquoi vous avez mis en exergue la réaction des avocats de Jean-Pierre Bemba au lieu, par exemple, de mettre en exergue la décision de la Cour pénale internationale?
Nous avons, c'est vrai, il y a des journaux qui ont eu la primeur de sortir avec la décision de la CPI. Et nous, on a préféré nous concentrer sur la réaction des avocats, parce que nous pensons que c'était quand même l'actualité à ce moment-là, hein, par rapport à la décision qui a été rendue la veille.
Et la décision n'était pas importante, parce que c'est ça que les gens attendaient, et pas la réaction des avocats.
Bien sûr qu'elle est importante, la décision est importante, mais ça ne nous surprend pas, cette décision qui a été rendue. Donc on est parti pour un long procès, et je vois pas le sénateur Bemba s'en sortir dans 2-3 ans.
Hein. Et donc, dans votre rédaction, vous vous attendiez à cette décision de la CPI?
Tout à fait.
Jean-Mel Boulam, vous êtes rédacteur en chef adjoint et secrétaire de rédaction du journal Le Climat Tempéré. Vous, par contre, vous titrez Jean-Pierre Bemba, c'est le procès avec un point d'exclamation à la fin de la phrase. Comment vous interprétez ce point d'exclamation?
Ce point d'exclamation exprime à la fois une tristesse, aussi une surprise, parce que selon les déclarations des avocats, les précédentes déclarations qui rassuraient le peuple congolais que Jean-Pierre Bemba allait rentrer, que Jean-Pierre Bemba allait se libérer. Mais finalement, la Cour décide de traduire, de juger Jean-Pierre Bemba. Donc nous disons que c'est à la fois une surprise et à la fois une tristesse. Nous avons estimé qu'il fallait mettre un terme à la spéculation. Il y a eu tellement de spéculations autour de la présence de Jean-Pierre Bemba à La Haye. Il fallait absolument fixer l'opinion que Jean-Pierre Bemba va être jugé.
Et dans un autre passage de l'article, vous écrivez, c'est parti pour plusieurs années. Vous pensez qu'il va faire plusieurs années? La décision peut changer parce que les avocats vont interjeter appel.
Oui, nous disions c'est pour plusieurs années parce que à la Cour pénale internationale, ce n'est pas du jour au lendemain que la Cour va se prononcer. La Cour peut même revenir demander encore au procureur de refaire des enquêtes. Et ces enquêtes-là ne vont pas prendre une journée, ne vont pas prendre une semaine, ça va prendre beaucoup de temps. Lorsque le procureur pourra encore faire des enquêtes, pour chercher encore des charges à mettre sur le dos des Jean-Pierre Bemba, c'est pas pour 2 ans, c'est pas pour 3 ans, c'est vraiment pour longtemps. Et même le procès ne va pas durer pendant plus de 2 ans, 3 ans. Thomas Lubanga qui se trouve là-bas, qui a été inculpé, il n'est pas encore jugé. Il a déjà fait quelques années. Ce que nous avons dit, c'est pour plusieurs années, ce n'est pas pour peu de temps.
Pierre Sorminian, vous êtes éditeur du journal Le Fédéral. Est-ce que cette information de Jean-Pierre Bemba a fait aussi la une de votre journal de mardi ou mercredi, parce que la décision est tombée lundi soir?
On en a passé mention. Nous avons d'abord un problème technique chez nous pour cette semaine, mais au moins quand même. Nous avions déjà pensé à réfléchir à notre rédaction. Nous estimons que Jean-Pierre Bemba, c'est vrai, il est victime des effets de l'implantation de la CPI. Il a à tout prix, il devait d'abord chercher à dissuader d'autres malfaiteurs dans le monde et à se faire aussi accepter dans son implantation. Mais il est aussi victime aussi de ses propres actes aussi. Ce qui nous intéresse plus, nous, c'est que nous trouvons que nous avons beaucoup décrié dans notre pays comme dans d'autres pays africains la justice à deux vitesses. Mais curieusement, c'est ce que nous constatons aussi avec la justice internationale. Nous pensons, en tout cas avec honnêteté, au-delà des actes qui pourront être mis en charge de M. le sénateur Mbemba, nous pensons que Mbemba devait être interpellé en second lieu, parce qu'il n'était qu'un invité en République centrafricaine. Parce qu'en se l'exploitation lui-même, et dans un pays, il est en train de circuler librement. Mais pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi on ne l'interpelle pas? C'est ce que nous ne comprenons pas.
Et s'il fallait titrer cette actualité, vous mettriez en exergue quoi? La décision de la CPI ou bien la réaction des avocats de Jean-Pierre Bemba?
Ah, là, nous mettrions plutôt une position purement patriotique. Nous allions nous appeler, n'est-ce pas, l'État congolais à s'intéresser aussi de ses enfants qui ont un problème à l'extérieur, au-delà des divergences d'opinion, nous pensons que l'État congolais devait quand même s'intéresser. Parce que ça, c'est un problème qui s'est passé sur une terre étrangère. Mais il y a des choses qui sont passées ici chez nous, l'État d'Anda, les Moutéboussi, les coups d'abattoir. Pourquoi on ne veut pas aussi s'intéresser? Pourquoi on veut seulement s'acharner sur... il peut être coupable, tant mieux. Mais l'État congolais, il a aussi le rôle de protéger les siens en situation de détresse qui sont à l'étranger. Nous voyons vers d'autres pays, la France, la Belgique, les États-Unis ne peuvent jamais laisser un de leurs, quelle que soit la situation, les crimes qu'il a commis, ils ne peuvent pas les laisser comme ça. On sent quand même qu'on lui apporte un certain réconfort. L'État congolais, en cette période où nous sommes en train de rétablir la nation congolaise, et au moment où nous sommes en train de vouloir créer la réconciliation nationale, moi je pense que le gouvernement congolais devait faire un pas. Aller en tout cas son ennemi et laisser bien sûr à la justice faire son travail, mais en lui apportant quand même réconfort en tant que sénateur, parce qu'il représente une portion de population congolaise qui ont fait confiance en lui, mais aussi en tant qu'enfant du pays, au-delà de crimes qui peuvent être, n'est-ce pas, arrêtés comme on est.
Dieudonné Mbouy, je reviens encore à vous une fois. Je prends un autre passage de votre article sur Jean-Pierre Bemba. Je cite, les avocats ont donc la lourde responsabilité de balayer ces dernières charges retenues contre leurs clients afin que ces derniers recouvrent définitivement sa liberté, surtout que la situation politique actuelle en République démocratique du Congo exige que tous les acteurs politiques, surtout de l'opposition, agissent en synergie pour sauver les pays du chaos. Vous pensez qu'il est que Jean-Pierre Bemba est innocent des charges qui lui sont imputées?
Non, pas du tout, pas du tout. En fait, on ne dit pas que Bemba n'est pas coupable, on ne dit pas non plus qu'il est coupable. Il y a un procès qui a été amorcé, donc tout ce que nous vous souhaitons, c'est qu'il y ait un procès juste et équitable. Juste et équitable pourquoi? Parce que on a comme l'impression, et ça c'est dommage parce que ça risque d'avoir une incidence sur le procès plus tard. Si déjà dès le départ on constate qu'il y a comme de l'acharnement sur la personne du sénateur Bemba, ça risque d'avoir une incidence plus tard. Je ne sais pas ce que prévoit la jurisprudence. Au cas où la défense de Bemba serait amenée peut-être un jour à retirer sa confiance au procureur Moreno, je ne sais pas. Ça, on posera peut-être la question aux juristes, mais il y a comme de l'acharnement.
Jean-Mel Bolam, du côté du MLC, c'est aussi une autre réaction hein, après la décision de la CPI. Du côté du MLC, on continue à clamer haut et fort que le dossier est totalement vide et qu'à la fin, on devra pouvoir faire justice à Jean-Pierre Bemba.
Oh oui, c'est une opinion qui est émise par la formation politique intéressée. Uh-huh. C'est normal que MLC donne cette position. L'avis d'un juriste sans coloration politique, selon lui, il y a l'article 28 du statut de Rome qui dit que un chef militaire ou un supérieur militaire hiérarchique est responsable des actes de ses troupes sur le terrain. C'est-à-dire, selon cet article, au terme que je n'ai pas textuellement, mais je donne l'idée, selon cet article, le chef
hiérarchique ou supérieur d'une armée est censé savoir le comportement de ses troupes. Est censé savoir si ces troupes sont en train de commettre des crimes ou vont commettre des crimes, et il est appelé à empêcher l'exécution de ces crimes. C'est sur cet article que la Cour se base pour juger Jean-Pierre Bemba. Mais toutefois, il y a aussi le même juriste qui dit que Jean-Pierre Bemba peut bénéficier d'une circonstance dans ce sens que ses troupes agissaient en son absence et que ces troupes ont été mises à la disposition du pouvoir centrafricain de l'époque. Donc c'est comme quelqu'un qui donne son véhicule en location. Celui qui prend ce véhicule, il le gère. Il l'utilise comme bon lui semble. S'il connaît un accident, c'est celui qui gère ce véhicule qui devait subir les conséquences. Malheureusement, pour le cas de Jean-Pierre Bemba, celui qui est impliqué, celui qui est incriminé, et ceux qui ont eu à gérer ce troupe-là se promènent encore librement à travers le monde, même dans des pays qui sont censés arrêter ce monsieur. C'est un peu injuste de la part de la Cour.
Jasper Mingam, au regard de tout ce qui se passe, est-ce que vous pensez que Jean-Pierre Bemba a une chance de s'en sortir?
Ah, bon, en fait, je ne suis pas trop juriste, je ne sais pas bien.
Non, mais vous pouvez quand même analyser en tant que journaliste.
Bon, je trouve que Bemba n'a pas de chance de s'en sortir au regard déjà de cet acharnement. Comme je l'ai dit au début, ça commence à paraître comme au même moment, il y a une mémoire qui voudrait à tout prix que l'homme soit condamné pour qu'il y ait tranquillité au Congo. Au même moment, ça montre que réellement il est coupable. Mais la question que nous nous posons, c'est quoi? C'est que quand les troupes de Bemba sont invitées, il y a l'ex-président Ange Félix Patassé était élu membre de l'Union africaine. Pourquoi les États de l'Union africaine ne pouvaient pas eux interdire que des groupes rebelles viennent, n'est-ce pas, au rescousse de l'État démocratique? Ils devaient plutôt empêcher ça. Voilà une erreur encore qui peut encore compliquer davantage. On ne pouvait pas attendre que Bemba amène ses troupes pour qu'après on commence à condamner. Et la deuxième question que nous nous posons, c'est quoi? Est-ce une armée qui était reconnue? Parce qu'étant négociant au niveau de Lusaka, ou bien c'était des mercenaires. Voilà autant de questions que nous nous posons. Si c'était des mercenaires ou une armée reconnue, bon, qui avait la charge de la commande de cette armée en République centrafricaine?
Et donc, pour vous, il n'a pas de chance, voilà. En un mot.
Il n'a pas vraiment de chance, il n'a pas de chance telle que je vois.
Parlement clôture lundi 15 juin de la session ordinaire de mars. Dans les deux chambres, c'est le dernier terme de notre tribune de ce soir. Fin lundi dernier de la session ordinaire de mars dans les deux chambres du Parlement. Selon les parlementaires, cette session s'est déroulée normalement au Sénat, tandis qu'à la Chambre basse, elle a connu quelques perturbations relatives notamment à la démission du bureau Caméré et à l'élection du nouveau bureau présidé par Évariste Beauchamp. Cette session est l'unique depuis le début de la législature qui n'a pas connu des sessions extraordinaires. Les détails avec vous, Marie-Chantal Lumba.
À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs se disent satisfaits du travail abattu. Édouard Mokoloa-Pompo, président intérimaire, qualifie la session de laborieuse. Au total, 2 propositions et 8 projets de loi ont été adoptés. Concernant le contrôle de l'action du gouvernement, 16 actions ont été menées à l'Assemblée. Les députés ont passé le premier mois de la session au renouvellement de leur bureau. Les 2 mois suivants, près de 8 projets et propositions de loi ont été adoptés et 22 initiatives dans le cadre du contrôle parlementaire effectué. Évariste Beauchamp, président du bureau, a jugé ce bilan largement positif. Du côté des députés, cet avis est partagé. Certains estiment que la session s'est soldée sur un goût d'inachevé, avec une motion de défiance contre le Premier ministre qui n'a pas été traitée, ou encore des lois qu'ils jugent importantes, comme celle sur la CENI, ou encore sur la réforme de la police et de la justice sont restées en chantier, tandis que d'autres députés pensent que l'essentiel a été fait et le temps rationnellement géré, en soulignant un record. 82% du travail programmé s'est réalisé en 59 jours.
Jean-Mel Bollard, quel est le bilan que vous dressez de cette session? Bilan que le président de l'Assemblée juge très positif parce que selon lui, en 59 jours, 22 initiatives dont une interpellation, 2 motions de défiance, 6 questions d'actualité et 13 questions orales avec débat, record jamais battu dans l'histoire de cette législature.
Bien, le président de l'Assemblée nationale s'est dit satisfait. Ils ont
réalisé 82% de matière précise. Mais est-ce que ce qui est important, c'est la quantité de matière traitée ou c'est la qualité du travail fait? Il y a tout à l'heure, notre conseiller qui parlait de travaux, parlait de la CNI. Est-ce qu'ils sont parvenus à traiter cette question qui est très importante parce que bientôt on va rentrer en élection, dans des élections municipales. Et la question de la commission électorale nationale indépendante n'est pas épuisée, n'a pas été traitée comme il se doit. Donc le président de l'Assemblée nationale ne peut pas se dire très satisfait d'avoir fait à l'OPIA de la matière importante qui n'a pas été traitée.
Comme la matière importante n'a pas été traitée, vous pensez qu'il est important d'organiser une session extraordinaire?
Normalement, il devait organiser une session extraordinaire, mais je ne sais pas pourquoi ils se sont précipités d'arrêter cette session pour aller en vacances. Ils n'ont eu que 59 jours. Alors, généralement, ils feront 3 mois, ça fait 90 jours. Ils devaient demander encore 30 jours.
Donc, 59 jours, c'est avec le président Bouchab.
Ah, oui, justement, avec le président Bouchab, 59. Prenons 3 mois, 2 mois plus tôt. Mais il y en a qui font, ils font parfois 3 mois, 4 mois. Mais pourquoi ils ont arrêté juste après 59? Est-ce qu'ils évitaient une situation? Moi, je dirais oui. Ils évitaient juste l'interpellation du Premier ministre. C'est pourquoi ils ont arrêté anticipativement les travaux de l'Assemblée. Parce qu'ils savaient qu'il y a des députés qui attendaient des pieds fermes le Premier ministre pour l'interpeller, pour présenter la motion de défiance. Alors, pour éviter cette situation-là, ils ont arrêté. Mais ce n'est qu'une remise en question.
Une
partie remise. Parce que les autres vont les attendre au tournant au mois de septembre.
De Donner Mbouy, vous, quel bilan dressez-vous de ces 59 jours d'Évariste Bouchab à la tête de l'Assemblée nationale?
Bon, nous notons qu'il y a de l'autosatisfaction dans le chef du nouveau président de l'Assemblée nationale, qui dit qu'il a réalisé 82% des prévisions. Bon, nous lui laissons la liberté de faire ce jugement-là, mais je retiens plutôt ce qu'a dit le sénateur, enfin un député d'un parti d'opposition, qui a dit qu'il faut plutôt laisser au nouveau président de l'Assemblée nationale le temps de prouver que c'est un homme qui travaille aussi avec nous autres. Donc c'est trop tôt de le juger. Mais nous notons également qu'il y a la session de mars laisse un goût d'inachevé.
C'est-à-dire?
Un goût d'inachevé, pourquoi? Parce que il y a la loi sur l'amnistie, par exemple. On sait qu'elle a été votée sans les députés de l'opposition, qui ont claqué la porte pour ne pas valider une loi qui était apparemment taillée sur mesure, parce que elle ne prenait en compte que les faits concernant le Kivu et pas les autres provinces, alors que les autres députés voulaient que cette loi soit étendue aux autres provinces.
Mais la loi était quand même votée.
Elle a été votée dans ces conditions-là.
Oui.
Voilà. Donc, il y a le goût de l'inachevé, et puis il y a aussi, comme l'a dit mon compère d'à côté, cette histoire d'interpellation du Premier ministre qui a été apparemment évitée subtilement par le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui a voulu peut-être sauver la majorité, mais je ne sais pas combien de temps cela va durer.
C'est peut-être une question de temps.
Oui, je crois que le président Bouchab a peut-être évité qu'on puisse en arriver à une session extraordinaire. Bon, le temps de se donner aussi le temps de voir comment les choses vont se passer au sein de sa famille politique par rapport à cette interpellation. Et donc, on attend le mois de septembre pour voir ce que ça va donner.
Jeff Mwingam, il y a quand même des choses qu'il faut mettre à l'actif du président Bouchard. Par exemple, la rationalisation du temps des paroles, le fait de ne pas avoir une session extraordinaire, parce que les députés aussi ont quand même besoin de repos. Vous, quel est le bilan que vous dressez de cette session?
Bien, moi, j'ai beaucoup aimé l'expression « goût d'inachevé », là. Ça, c'est ce qui va beaucoup plus. Effectivement, c'est une session qui s'est achevée de cette façon-là. Nous comprenons que Le président Bouchard, effectivement, bon, se développe pour satisfaction, mais qui n'a pas vraiment un impact pour le bien-être de la population. Dire que les députés ont besoin du repos, oui, mais même quand ils viennent en vacances parlementaires, nous ne voyons même pas rassembler la population pour parler, échanger avec eux. Alors, dès que les repos, ils cherchent. Par contre, là-bas, nous le voyons, il y en a qui dorment, il y en a qui sont absents, qui ne viennent que pour leur terrien. Il y en a très peu qui interviennent. Bon, ça, ce sont des à côté. Mais ce qui est important ici, c'est quoi? C'est que cette session, dire que la régie, bon, c'est le droit du président de le dire, mais nous, en tant que population, nous voyons que il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Il y a, par exemple, la loi, une des lois utiles pour l'organisation des élections locales qui n'a pas été votée, notamment la loi sur l'identité déconcentrée. On attendait beaucoup de ça. Notre ami a ajouté aussi la loi sur la CENI. On devait finaliser, mais quand on renvoie à la session de septembre, on comprend facilement que le président Bouchard, c'était une façon de bloquer la démarche et de sauver le premier ministre Mouzito. Et ça, ça montre aussi suffisamment que la politique congolaise continue encore à souffrir de la même mise des familles politiques. Parce qu'on ne se préoccupe pas, dans les trois mois ici qui suivent, de leurs vacances. Mais les problèmes n'ont pas été résolus. Mais la population va continuer dans cette misère. Les lois qui n'ont pas été votées, on va continuer toujours comme ça. Mais moi, je pense que le président devait prendre sa responsabilité et de convoquer une assemblée, une session extraordinaire, parce que les 59 mois, il avait déjà la justification, parce qu'il n'a travaillé que pendant 59 mois. Donc, il avait une justification suffisante pour pouvoir convoquer une session extraordinaire afin d'épuiser de la matière. Ce n'est pas en 59 mois qu'il va nous dire qu'il s'est déjà fatigué. Non, là, nous ne sommes pas d'accord. C'est là que nous trouvons que son bilan n'est pas vraiment très satisfaisant. C'est déjà un mauvais départ pour lui. C'est là que vous voyez maintenant que, comme disent les sages, qu'on reconnaît la longueur du serpent qu'après sa mort. C'est là qu'on va donner maintenant raison à M. Vital Kamerhe. C'est juste la méthodologie. Mais le problème, c'est la production parlementaire.
Merci. Jeff Mingam, on vous a compris. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté de participer à notre tribune de la presse. Donc, Jean-Mel Boulam, de Donimbou, et vous-même, Jeff Mingambe. Merci à Guy Maxé qui a réalisé pour vous cette émission, assisté de Samuel Ketchak et Alain Rung, sous la coordination de Martin Seboujangwe. La mise en onde de cette émission a été assurée par Sylvain Matundu et à la présentation, Kéline Couté, au nom de toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, nous vous souhaitons un excellent week-end, espérons vous retrouver dès lundi prochain.